C'est d'actu. Le magazine d'actualité, tous les jours sur Radio Alpa. Radio Alpa. Présenté par Robin Hulin.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est d'actu, le dernier de la saison. Alors au programme, aujourd'hui nous avons la chance d'écouter un entretien de Mathieu Lartaud, la plus célèbre des voix du rugby français. Le journaliste était de passage au Mans le 2 juillet pour la présentation de son livre « On n'ampute pas le cœur ». À cette occasion, Fred Geffard l'a rencontré et a pu s'entretenir avec lui. Et puis aujourd'hui, c'est également la chronique littéraire de Charlie Pless, « Pourquoi lire ?» Et dans ce dernier numéro, il vous parle d'Arthur Schopenhauer. Voilà pour les principaux sujets aujourd'hui. Le journaliste sportif Mathieu Lartaud est venu présenter son dernier livre, On n'ampute pas le cœur. Le plus célèbre des commentateurs de rugby en France revient sur la récidive de son cancer et l'amputation de sa jambe l'année dernière. C'est un entretien réalisé avec les journalistes de la presse locale et avec Fred Geffard pour Radio Alpa. Il revient notamment sur ce qui l'a motivé à écrire un livre.
En l'occurrence, là, c'était assez facile et évident dans la mesure où, à partir du moment où j'ai rendu public l'annonce de ma récidive, j'ai eu énormément de messages sur les réseaux sociaux, des lettres, beaucoup de choses. Et en fait, j'avais déjà mesuré l'impact que pourrait avoir le livre parce que c'est une histoire qui, malheureusement, résonne beaucoup chez les gens, parce qu'on a tous dans nos entourages des gens qui sont touchés par le cancer. Il y a énormément de personnes aussi en situation de handicap en France, près de 12 millions. Donc forcément que les deux thématiques centrales du livre font écho. Donc je me suis dit, autant me lancer pleinement là-dedans. Le travail d'écriture, c'est comme un exercice de vérité. Donc autant être le plus sincère et authentique possible et de même me mettre à nu finalement et de me raconter depuis le début pour pouvoir... D'une part, moi, sans doute aussi, me faire du bien à écrire ça, rendre service, si c'est possible, aux gens qui vont le lire. Et puis, ça me permet aussi de mettre tout sur la table, puisque quand on est une personnalité publique, c'est vrai que je le dis dans le livre, quand j'arrivais sur les stades, on avait tendance à me poser des milliers de questions sur ce qui m'était arrivé. Donc là, au moins, les gens ont toutes les réponses sont dans le livre. Je ne me sentais pas comme une personne handicapée dans la mesure où pour moi la perception que j'en avais en tout cas c'était celle de personnes qui sont dans une autonomie réduite et qui sont surtout dans l'obligation d'avoir des gens autour d'eux pour pouvoir faire des choses, ce qui n'était pas mon cas. Donc j'ai mis un certain temps, alors il y a une forme de déni incontestablement, mais j'ai mis un certain temps effectivement à me dire que je rentrais sans doute dans une de ces cases-là, mais mon handicap... était tellement invisible, même si évidemment je boitais au quotidien, mais j'avais pas besoin de personnes qui m'assistent dans ma vie pour aller prendre des transports. Et aujourd'hui, effectivement, bon, ma vie a radicalement changé depuis l'amputation. Je suis reconnu invalide à 80% aujourd'hui, donc évidemment, et c'est sans rentrer dans quelque chose de militant, c'est quelque chose que j'assume. Que je mets sur la table, c'est des sujets de société qui sont extrêmement importants, l'accessibilité, l'inclusion. Les Jeux paralympiques arrivent dans quelques semaines en France. Et c'était l'occasion pour moi aussi de mettre des sujets un peu qui me sont chers sur la table de la classe politique aussi, qui est la seule en mesure de pouvoir faire changer un petit peu les choses en France. Donc oui, quand on fait un livre, je parlais d'exercice de vérité, c'est aussi mettre des sujets comme ça un petit peu sur le devant de la scène pour essayer de faire bouger un petit peu les lignes, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en France. Parce que souvent, malheureusement, le cancer est vécu comme une période d'isolement. Moi, j'ai eu cette chance d'être très très entouré par ma famille, par mes proches, et d'avoir le soutien, effectivement, du public. Mais la majorité des personnes qui affrontent cette maladie l'affrontent souvent seules, ou en tout cas... Dans un sentiment d'isolement. Et donc ce genre d'écrit aide ces gens-là, et moi je suis extrêmement fier de ça aujourd'hui. Donc c'est des moments d'échange, de partage, où on se raconte nos histoires finalement, parce que les gens rebondissent souvent sur pas mal de choses que j'évoque dans le livre. Il y a les périodes de chimiothérapie, évidemment la rééducation liée à mon amputation, mais souvent par rapport à la maladie et par rapport au cancer, il y a des points de convergence sur lesquels on peut longuement palabrer. Et souvent aux personnes qui viennent me voir et qui me parlent du livre, que en fait ce qui est très important, c'est d'avoir des objectifs de vie, un moteur. Alors on a cette chance là, je crois que vous partagerez mon avis, de faire un métier de passion. Et quand on fait un métier de passion, c'est un privilège immense. Et moi, j'ai pu le mesurer à travers toutes les épreuves que j'ai traversées, y compris dès le premier cancer, parce que quand j'étais adolescent, quand le premier cancer m'a atteint, j'ai tout de suite eu cette projection sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant. Je ne peux plus pratiquer le rugby, quasiment plus aucune activité sportive. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et le journalisme sportif est arrivé comme une évidence. Donc ça a déjà été un moteur à ce moment-là. Et 25 ans plus tard, au moment de la récidive, la Coupe du Monde de rugby en France, au mois de septembre, quand je me fais amputer le 16 juin, c'était pour moi l'objectif à atteindre. Évidemment que c'était pour le corps médical assez irréalisable au moment où je leur annonçais que je voulais être dans le Stade de France le soir du match d'ouverture. Mais c'est quelque chose qui m'a animé. Et je crois qu'on a besoin dans notre vie, alors quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, d'avoir ces choses-là qui vous animent et qui un moteur, voilà, qui vous pousse à aller chercher les choses, à vous dépasser aussi, parce que là il y avait aussi un enjeu, parce que quand on est amputé, on réapprend à marcher comme un enfant, donc il faut pouvoir basculer dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre, quoi. C'est un saut dans l'inconnu, mais en tout cas d'un point de vue mental, c'est quelque chose qui est très très important de pouvoir se projeter sur quelque chose de concret. Et donc moi, c'était la Coupe du Monde, le 8 septembre, match d'ouverture France All Black. Donc quand on est un journaliste de rugby, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de manquer. Et ça, c'est sûr que ça m'a boosté, en tout cas.
Le pilote automobile Alex Zanardi, quand il a subi sa double amputation suite à son accident en 2000, s'était dit tout de suite, dès que je sors de l'hôpital, ma vie doit redevenir la même. Il ne voulait pas qu'il y ait de changement. Est-ce que vous êtes dit, à un moment donné, est-ce que quand il y aura cette amputation, ce sera mieux pour moi ou que mon quotidien ne changera pas? Est-ce qu'il y a eu cette pensée, enfin, ce fonctionnement-là chez vous aussi? Même si ce n'est pas le même cas du tout.
Non, hein, non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Moi, en tout cas, la manière dont je l'ai appréhendé, c'est que je savais que ça allait évidemment avoir un impact sur ma vie quotidienne, parce que quand on est appareillé d'une prothèse, quand on l'enlève, on se retrouve sur une jambe. Donc ça change beaucoup de choses. En revanche, encore une fois, dans ma philosophie de vie, moi j'ai plutôt essayé de me dire qu'est-ce que ça va m'apporter au quotidien par rapport à la vie que j'ai eue pendant 20 ans avec une jambe raide suite à mon premier cancer. Et en fait, en me projetant comme ça, j'ai encore une fois tourné le truc en positif. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais pu faire de vélo avec mes enfants depuis que je les ai, depuis 20 ans. Là, le fait d'avoir une jambe bionique qui peut plier et qui peut monter sur un vélo, ça me permet de faire des balades en vélo avec mes enfants, ce que j'ai jamais pu faire. Donc ça, c'était pour moi un gain par rapport à avant. Si je le souhaite aujourd'hui, je peux retourner à la montagne, faire du ski. Il y a des choses qui existent aujourd'hui pour les personnes amputées. Bon, moi, ça fait plus de 25 ans que j'ai pas skié. Et en fait, j'ai fonctionné comme ça. J'ai rempli les cases que je ne pouvais pas cocher jusque-là. J'essaie de transformer ça de la manière la plus positive possible. Après, il faut pas non plus rendre les choses plus angéliques qu'elles ne sont. Ça a forcément un impact et des contraintes au quotidien, dans la vie de tous les jours. Toutes les personnes amputées, Zanardi fait des choses extraordinaires quand on le voit. Après, il y a l'envers du décor, quand on est dans son quotidien, quand on fait face aux problèmes d'accessibilité dans les villes, un peu partout dans le monde, mais en particulier en France. Il y a des obstacles à surmonter, c'est une vie d'adaptation. Le handicap, c'est une vie d'adaptation. Après, il suffit juste de bien placer la mire et de se dire, moi, je vais essayer d'en tirer le plus de bénéfices possible. Mais ça implique quand même des choses qui ne sont pas toujours très drôles.
Vu que le sport est ta passion, que la passion est un moteur, un mot sur les Jeux olympiques, paralympiques, ouais. Ça aussi, ça va... contribuer à renforcer un lien dans le pays, d'après toi ?
Alors, renforcer ou recréer ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pour moi la vertu du sport, c'est celle-là. C'est d'unir, de fédérer, d'oublier un peu tout ce qui se passe en ce moment dans notre pays politiquement. Donc moi, c'est le souhait que je fais. J'espère que ce sera ce type de moment-là qu'on va vivre tous ensemble collectivement. Après, il y a un enjeu aussi, je crois, de rayonnement, d'image du pays dans le monde, parce que les Jeux Olympiques, c'est un événement comme ça, planétaire, où les étrangers vont nous juger aussi à travers les images qu'ils verront. Donc j'espère qu'on en verra l'image d'un pays unifié, soudé, fier de ses athlètes. En tout cas, moi, je suis extrêmement fier de faire ces Jeux. Et quand je dis ces Jeux, j'inclus évidemment les Jeux paralympiques, puisque pour la première fois de l'histoire en France, les Jeux paralympiques seront traités de manière égalitaire avec les Jeux olympiques en termes de diffusion. Donc en termes d'exposition, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va être une vitrine formidable pour des champions d'exception. Je crois que les Français n'ont pas encore conscience de ça, parce que c'est pas vraiment dans nos gènes. L'essor du sport paralympique, ça a été Londres. Donc chez nos voisins anglais qui, eux, ont su transformer cet événement en quelque chose d'assez exceptionnel. J'espère qu'on sera capable de le faire, parce que tous les paraathlètes le méritent. Ce sont des champions extraordinaires. Et puis c'est une vitrine formidable, parce que ça peut peut-être changer le regard sur le handicap, ça peut peut-être changer des mentalités aussi sur l'inclusion nécessaire dans notre pays. Donc on va, nous, à France Télévisions en tout cas, retransmettre ces Jeux avec ferveur, avec passion. On va être à l'antenne 20h sur 24 tous les jours sur
comment on se prépare,
sur toutes les chaînes, France 2, France 3, en simultané, hein, plus une chaîne dédiée sur le digital. Ben, on se prépare, en fait, nous, l'avantage, c'est qu'à France Télévisions, l'olympisme est dans notre ADN, puisqu'on diffuse les Jeux tous les 4 ans, tous les 2 ans, si on compte les Jeux d'hiver. Donc on a une forme aussi un peu d'expérience, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement. Là, moi, je finis à peine la saison de rugby, bon, j'ai encore un stade devant les Jeux, et puis après, je suis focus sur les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on met tout entre parenthèses et on se lance là-dedans avec enthousiasme, quoi. Puis on a aussi, moi je le dis à la jeune génération de journalistes qui arrivent, il faut qu'ils aient conscience du privilège qu'est le nôtre, quoi. On a la chance de faire les plus grands événements de sport au monde, que ce soit le tournoi destination. Là, on diffuse le Tour de France en ce moment, on sort de Roland-Garros, on bascule dans les Jeux. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc extraordinaire. Donc il faut y aller avec de l'engagement, quoi, avec de la passion, avec de la ferveur, parce qu'on est, finalement, nous, des passeurs d'émotions. On essaie de restituer ce que l'on a la chance de voir au plus près à des millions de Français qui vont nous regarder à la télévision.
Merci à vous. Vous, quand vous étiez jeune, les Jeux Olympiques, ils symbolisaient quoi pour vous ?
Oui.
C'était qui vos idoles ? C'est Vincent Collet, les Jeux de Montréal. Enfin,
non, vous, parce que Montréal, c'est un peu...
Vous êtes plus jeune.
Ouais, je suis un peu plus jeune, mais moi, les premiers grands souvenirs, c'est la Dream Team, c'est Michael Jordan. C'est
donc Barcelone 92.
Barcelone 92, Marie-Jo, évidemment. Voilà, c'est des athlètes qui m'ont marqué. Puis, c'est difficilement descriptible, parce qu'en réalité, les Jeux Olympiques, c'est le moment où on se fout devant la télé pendant toute la journée, quoi, avec ses potes, sa famille. Et il y en a pour tout le monde. Il y a tellement de disciplines, il y a tellement de grands champions. Et puis c'est des champions, là j'ai parlé de champions évidemment iconiques, mais il y a aussi des sportifs qui ne sont pas dans la lumière pendant de nombreuses années et qui profitent de cet instant-là, de 15 jours, pour se révéler aux yeux du monde. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime dans le sport, c'est ça. Donc c'est tout ça, en fait, les Jeux. C'est pas que non plus les stars mondiales du sport.
C'est l'haltérophile syrien qui est invité.
Voilà, exactement. C'est aussi des gens qui vont se révéler, que personne ne connaissait il y a 10 jours, et puis qui, d'un seul coup, vont prendre une dimension extraordinaire, vont essayer de garder cette lumière-là le plus longtemps sur eux, parce que c'est souvent des disciplines qui sont sous-médiatisées par rapport à des grands sports comme le foot, le rugby, le tennis. Donc c'est l'occasion pour ces athlètes-là et pour nous, journalistes, d'essayer de faire en sorte d'en parler le mieux possible.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, c'est un entretien à réécouter en podcast sur le site de radioalpa.com. On avance dans cette émission et on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce dernier numéro de la saison. Avant ça, on écoute Dr. Dre et Nothing But a G-Thing. A tout de suite.
To the folk, Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up,
cause you know we're about to rip shit up.
Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G thing, baby. Two low-death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. Hell, but back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand from a young G's perspective. And before me dig on a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man, and at the same time burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. And that's realer than real deal, holy feel. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this, and it's like that and like this and like that, and it's like this and like that and like this, and Drake creep to the mic like a fan.
Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping, but I damn near got caught, cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. You've never been on a ride like this before, with a producer who can rap and control the maestro. At the same time with the dope rhyme that I kick, you know and I know I flow some old funky shit. To add to my collection, this selection symbolizes dope. Take a toke but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do.
It's like this and like that and like this, and it's like that and like this and like that, and it's like this.
And who gives a fuck about those?
So just chill to the next episode. On that ass, what a hell of a gangsta lean. Getting funky on the mic like an old batch of collard greens. It's the capital S-O-S, I'm fresh and double O-P. D-O-double-G-Y-D-O-double-G, you see. Showing much flex when it's time to wreck a mic. Pimping hoes and clocking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit.
Hell yeah.
So Drake,
what up, dog?
Gotta give them what they want.
What's that, G?
We gotta break them off something.
Hell yeah.
And it's gotta be bumping.
City of Compton is where it takes place, so when I show attention, mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making the sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close and your ass will get smacked. My motherfucking homie Doggy Dogg has got my back. Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping. But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping. And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down. And if your bitches talk shit, I have to put the smack down. Yeah, and you don't stop. I told you I'm just like a clock when I tick and I talk. But I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTO went in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better
like this, that, and this, and it's like that and like this and like that, and it's like this.
Then who gives a fuck about those?
So just chill to the next episode.
Dans 107.3 FM Le Mans,
Radio Alpa,
Radio Alpa,
l'alternative.
De retour dans cette nouvelle partie d'émission et il est l'heure de retrouver un de nos chroniqueurs. Bonjour Charlie Pless.
Bonjour Robin Hulin.
Aujourd'hui Charlie, pour la dernière de l'année, tu nous parles d'un livre qui a fait date dans l'histoire de la philosophie et qui a pourtant du mal à y trouver sa place.
Alors en effet Robin, puisqu'il est un monstre de la philosophie dont je pense vous avez tous déjà entendu parler, ne serait-ce que de nom, c'est Arthur Schopenhauer.
Évidemment.
Et plus particulièrement son œuvre majeure, Le monde comme volonté et comme représentation. Un énorme pavé de 1500 pages où Schopenhauer développe une philosophie métaphysique aux influences platonistes, catholiques et brahmaniques. Alors cela faisait des années que je voulais lire Schopenhauer car j'en avais entendu parler comme d'un véritable destructeur dont le pessimisme radical remettait en cause toute la vision du monde construite par deux siècles de philosophie classique cartésienne. Bref, Schopenhauer m'apparaissait comme un révolutionnaire qui a changé la face de la philosophie. Après l'avoir lu, je peux à présent tempérer ce jugement que je vais développer dans cette chronique et que je vais intituler du titre putaclic « Le grand raté de la philosophie ». Alors on peut commencer par dire que Schopenhauer pose un sacré problème aux spécialistes qui ne savent pas quelle place lui accorder dans l'histoire de la philosophie, ou bien même s'il est vraiment nécessaire de lui attribuer une place. En effet, Schopenhauer, s'il a pris à rebours les idées de son temps, on y reviendra, et créé quelque chose de nouveau, n'a cependant fondé aucune école et rares sont ses véritables héritiers. Mais je reviendrai encore sur ce point. Autre critique qui a pu lui être faite, c'est celle d'être un philosophe sans système, qui se contente de critiquer celui des autres, d'opérer en destructeur, mais jamais en bâtisseur. Je vais à présent moi-même critiquer ces deux points. D'abord, la place de Schopenhauer dans l'histoire. La pensée de Schopenhauer est totalement située dans un contexte. Le grand adversaire de Schopenhauer, c'est Hegel, dont la pensée est devenue hégémonique dans les universités allemandes. Je ne maîtrise vraiment pas Hegel, alors pour faire simple, Hegel conceptualise la raison comme toute-puissante, capable de soumettre à sa saisie, sa compréhension, l'univers tout entier. Pour lui, rien ne peut échapper à l'intellect humain. L'univers est raisonnable. À ce concept de raison avec un grand R, Schopenhauer oppose donc son concept à lui, celui de la volonté. Alors, pour vous expliquer ce qu'est la volonté, il faut d'abord que je la distingue de la représentation. Pour Schopenhauer, tout ce qui existe est représentation, c'est-à-dire est perçu par des consciences, des intellects, et n'existe qu'en tant que ces représentations. Mais alors, me demandez-vous, cela veut-il dire qu'il suffirait que tout le monde se ferme les yeux et les oreilles, en d'autres termes qu'il n'y ait plus aucune conscience dans l'univers, pour que l'univers lui-même disparaisse? Non, bien sûr. Schopenhauer, en bon métaphysicien, distingue ce qui existe de ce qui est. Et c'est là où on retrouve l'héritage de Platon et de son monde des idées dont les objets physiques ne seraient que des reproductions. L'héritage aussi de Kant, à qui il consacre tout un appendice critique. Kant a en effet suggéré que la connaissance humaine avait des limites et que certaines choses étaient en nous a priori. Schopenhauer explore un peu plus loin ce concept d'a priori et théorise que ce que le monde est en soi, c'est la volonté. Là, vous me dites, mais Charlie, on n'a toujours rien compris à ce que c'est que la volonté. C'est là un des principaux défauts de la philosophie de Schopenhauer. Son concept phare, la volonté, est impossible à définir clairement malgré les nombreuses références auxquelles il fait appel, de Spinoza à la philosophie bouddhiste. Pour faire très simple, la volonté, c'est l'énergie vitale du monde, qui est omniprésente, y compris en nous, et à laquelle nous n'avons accès ni par les sens ni par l'intellect, qui ne nous donne accès qu'à la représentation du monde, mais par l'intuition. Ouais, la volonté, c'est un truc assez vague. Mais c'est pourtant là-dessus que Schopenhauer fait découler sa pensée sur presque chaque objet sur lequel s'est portée la philosophie. La liberté, l'histoire, les sciences, la nature, l'art, la musique, le bonheur, l'amour, etc., etc. Et fonder une pensée de chaque objet de l'univers dont la cohérence repose sur un concept plus ou moins flou admis par un principe, pardonnez-moi, mais je trouve quand même que ça ressemble vachement à un système philosophique. Certes, un chapitre ne découle pas nécessairement du précédent, mais tout est fondé sur cette dialectique de la volonté et de la représentation. La pensée de Schopenhauer n'est pas en escalier, mais en pyramide à deux niveaux. Un concept fondamental, le reste qui en découle. Alors certes, accepter la philosophie de Schopenhauer demande par conséquent une certaine dose de foi en quelque sorte, mais je crois qu'aucune philosophie n'y échappe vraiment. Pour prolonger l'examen de cette critique de Schopenhauer insituable dans l'histoire de la philosophie, rappelons l'argument selon lequel il n'aurait pas d'héritier, de successeur qui aurait poursuivi son œuvre. non seulement c'est inexact, mais c'est surtout oublier l'influence énorme qu'il a exercée par la suite sur la philosophie allemande, quand bien même cette influence se fût-elle manifestée par l'opposition, à commencer par un certain Friedrich Nietzsche. Ou plus récemment et plus proche de chez nous, Clément Rosset. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'avoir des disciples comme en eurent Socrate, Platon, Aristote, Épicure, Descartes, Spinoza ou Hegel pour faire partie de l'histoire de la philosophie. Que faire alors de Schopenhauer ou d'autres comme Lucien de Samosate ou Diogène le Chien ou encore Montaigne qui, comme lui, se sont démarqués dans l'opposition, dans leur imperméabilité, leur cynisme, leur ironie, leur pessimisme hermétique. Ils sont des moments de l'histoire à eux tout seuls. Maintenant que j'ai bien caressé Chop Chop dans le sens du poil, il est temps de lui donner quelques coups de pied au cul. J'ai bien relevé précédemment qu'il parle d'à peu près tout et n'importe quoi dans le monde comme volonté et comme représentation, et je préviens, le n'importe quoi est souvent au rendez-vous. Qu'il s'agisse des sciences naturelles qu'il ne maîtrise pas du tout et au sein desquelles il invente une logique fantaisiste, ce qui aurait pu être brillant quoique fictif au XVIe siècle, l'est beaucoup moins dans un siècle scientifique tel que l'est le XIXe. Qu'il s'agisse de la sociologie qu'il ne maîtrise pas davantage, voire, dans le cas de la politique, qu'il la maîtrise si peu qu'il s'abstienne carrément d'en parler, ou qu'il s'agisse des femmes qu'il aimerait un peu trop maîtriser, Schopenhauer ne brille vraiment pas lorsqu'il s'agit de sujets concrets. Certainement, il a redonné un coup de sang à la métaphysique, c'est-à-dire aux questions concernant la possibilité d'une transcendance, les possibilités de la connaissance humaine, l'existence d'une forme de divinité, le rapport au monde, qu'il soit vécu dans la chair ou dans l'esprit, la question de la mort, de l'économie du vivant, etc. Mais l'existence terrestre, comme sociale, le dépasse de loin. Il faut dire que Chop Chop est un personnage atypique, un ermite reclus dans son bureau qui, n'ayant eu nul besoin de travailler pour vivre et n'ayant eu aucune vie de famille, passa en fait son existence à écrire et à penser sur un monde qu'au fond, il n'a jamais connu que dans les livres. Ainsi, si Schopenhauer est un destructeur de la raison souveraine, il n'est pas parvenu à la folie, celle qui agit, celle qui vit. Il en est resté au pessimisme, qui n'est que la première étape d'une allégresse chez lui avortée. Nietzsche et Clément Rosset, ses héritiers traîtres, sont alors des destructeurs bien plus puissants, en ce qu'au lieu de pleurer sur les cendres, ils y dansent autour d'un feu de joie. Le monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer est publié en un volume aux Presses universitaires de France dans la collection Quadridge.
Eh bien, merci beaucoup, Charlie, de nous faire voyager au pays de la littérature, de la philosophie de Chop Chop, comme tu dis.
Chop Chop, tout à fait. C'est son t-shirt.
Non voilà, c'est ça. C'est également la dernière de l'année pour toi. Donc, merci encore. À très bientôt sur notre antenne.
Eh bien, merci à toi de m'avoir accueilli.
Et puis, passe un très bel été. De notre côté, il va être l'heure de se tourner vers la dernière partie de cette émission. Avant ça, je vous propose une pause musicale. Kiss et All for the Glory. À tout de suite.
Oh, 107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
De retour dans cette dernière partie d'émission, et pour finir, on va parler du festival de Sablé qui revient du 21 au 24 août. Et pour ça, je vous propose de réécouter l'interview de Brian Bellardan sur notre antenne.
La vie culturelle locale avec Brian Bellardan.
Bonjour Lambert.
Bonjour.
Vous êtes conseillère artistique et vous organisez avec l'Entracte le festival de Sablé qui a lieu le 21 août au 24 août 2024 à Sablé-sur-Sarthe. Lambert, d'abord pour commencer, en quoi consiste votre rôle de conseillère artistique ?
Alors, le rôle de conseillère artistique, c'est d'imaginer une programmation qui va donc s'inscrire sous une thématique bien particulière que je choisis, et donc créer une programmation de 11 concerts, puisque le Festival de Sablé comprend 11 concerts, qui va donc parler de cette thématique en offrant des regards musicaux et artistiques différents concernant cette programmation. Donc c'est inviter des artistes, les programmer dans un programme spécifique afin que le public puisse les découvrir ou redécouvrir.
Si l'on s'intéresse maintenant à l'événement, quel est le programme du Festival de Sablé ?
Alors, la thématique de cette année est du ciel à la terre. J'ai décidé de mettre en avant cet élément très important de l'inspiration céleste qu'éprouvaient les compositeurs, notamment de l'époque baroque, pour justement créer ces œuvres qui sont encore pleinement jouées aujourd'hui, hein, plusieurs siècles avant. C'est une thématique très importante parce qu'en effet, il y a eu beaucoup de musique sacrée, mais également de la musique profane, mais qui a parfois été inspirée des croyances, des religions ou des ressentis de cette époque. Donc c'est vraiment une programmation qui réunit beaucoup de musique dite sacrée, mais également de la musique profane, pour justement voir également le mélange et l'interaction qu'il y a entre les deux par l'inspiration de ces compositeurs.
Et justement, comment est-ce que l'on fait découvrir ces différents styles de musique, notamment le genre baroque, au public qui n'est pas du tout connaisseur ?
Alors en fait, tout le monde connaît la musique baroque sans forcément le savoir. Si on écoute Les Quatre Saisons, tout le monde a déjà entendu plusieurs fois cet ouvrage, hein, de Vivaldi, donc de l'époque baroque. Simplement, le Festival de Sablé met en avant vraiment spécifiquement cette époque, même s'il y a quelques petites ouvertures dans le programme, parce que c'est très intéressant d'entendre cette époque jouer sur des instruments qu'on dit de musique ancienne, des instruments anciens. Non pas qu'ils soient anciens, parce qu'on en construit encore maintenant de ces instruments, mais ils sont adaptés au diapason, c'est-à-dire à la hauteur des notes qui étaient interprétées à l'époque baroque. Et surtout, on entend l'émotion des instruments tels que la viole de gambe, qui est l'ancêtre du violoncelle, celui du clavecin, qui est l'ancêtre du piano, notamment. Et donc, ça donne vraiment un retour en arrière sur l'émotion que provoque cette musique baroque avec les instruments anciens. C'est une musique extrêmement facile d'accès. On n'a vraiment pas besoin de connaître pour venir découvrir toutes ces inflexions de la musique, ses beautés et ses richesses.
Dans le programme, vous proposez d'ailleurs aussi une conférence de Thomas Lecomte. De quoi s'agit-il ? De quoi est-ce qu'il va parler ?
Alors, il y a une conférence, en effet, de Thomas Lecomte, qui est musicologue au Centre de musique baroque de Versailles. Il va parler du programme qui aura lieu le soir même par l'ensemble correspondance des Maîtres de Notre-Dame. C'est un programme qui est conçu autour de tous les compositeurs qui ont œuvré à Notre-Dame de Paris. Et donc, Thomas Lecomte va justement parler de toute l'histoire de ces compositeurs à cette époque baroque, comment ils ont réussi à créer des choses et comment, grâce à Notre-Dame de Paris et tout ce qui s'y est passé dans ses murs, eh bien, la musique a pu rayonner. C'est vrai que c'est un programme, c'est une conférence pré-programme du soir, un programme qui va être donné pour l'ouverture de Notre-Dame de Paris en novembre prochain, et on a la chance, le privilège, je dirais même, en primeur à Sablé, de pouvoir le proposer au public. C'est un programme d'une splendeur inouïe, d'une variété formidable, des chœurs, de l'orchestre, des solistes. C'est un effectif assez important et c'est un des meilleurs ensembles français, voire européens. Et donc c'est vraiment un programme splendide à découvrir.
Le Festival de Sablé va également faire vivre une immersion à des jeunes en plein cœur de l'événement. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir ? Les coulisses du festival ?
Oui, voilà, c'est la mission locale. En effet, l'équipe de l'Entracte travaille toute l'année avec sur le territoire. C'est évidemment très très important de connecter les gens du territoire à tous les événements de l'Entracte, dont le festival. Donc en effet, ils viennent découvrir les coulisses, ils peuvent venir découvrir les répétitions, rencontrer les artistes. Il y a aussi des ateliers qui sont organisés en parallèle. Et c'est vrai que c'est formidable parce que je les croise évidemment pendant le festival, même si ça n'est pas moi qui les gère directement, évidemment. Et donc, c'est formidable de découvrir leurs questions et leur façon de découvrir la musique baroque et l'art baroque de manière tout à fait décomplexée, en posant toutes les questions qu'ils osent poser. Et ça, c'est formidable parce que c'est ce qu'on recherche, c'est attiser la curiosité, l'intérêt, parce qu'ils ressentent l'émotion. L'année dernière, deux, trois jeunes sont venus me voir quand je les ai croisés. Et on a parlé, il y en a deux qui m'ont dit, bah, nous, on a pleuré, on ne sait pas pourquoi, mais c'était tellement beau. Voilà, et c'est ça, c'est cette émotion de beauté, de joie, toutes les émotions humaines que la musique, et notamment la musique baroque, peut procurer au public.
Et ce sont justement ces enjeux-là que vous voulez montrer lors de cet événement, l'émotion à travers la musique baroque au public.
Oui, tout à fait. Le public connaisseur sait parfaitement de dont je parle, mais c'est vrai que nous travaillons sur un territoire et nous sommes toujours très heureux de recevoir un public qui connaît un peu peut-être ou qui ne connaît pas du tout venir voir le spectacle, les spectacles. Il y a un spectacle qui est dédié au jeune public qui s'appelle Ombre errante avec un pianiste, un des plus grands pianistes au monde et un ombromane formidable. C'est un jeu d'ombre, on peut venir le découvrir en famille. C'est ça aussi la joie d'un festival. On découvre ensemble, on en parle ensemble à la maison. Et puis il y a également un autre concert qui est un peu différent de la musique baroque. On reçoit le très grand violoniste Nemanja Radulović et le pianiste que l'on connaît tous, ou beaucoup en tout cas, Philippe Cassard. Il nous offre un récital dédié spécialement pour le festival de Sablé, du baroque à nos jours. Donc on va entendre tous les styles de musique. Et puis ce sont des artistes formidables, très généreux, comme tous ceux qui sont invités d'ailleurs au festival de Sablé. Mais voilà, il y a des petites touches différentes aussi dans la programmation. C'est voulu pour que chacun puisse s'y sentir comme à la maison.
Oui, et puis on remarque que c'est un festival qui va être international, surtout puisque des musiciens viennent des quatre coins du globe.
Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que notre métier est un métier qui est très lié à l'international. Hein. Mais c'est vrai que ce sont des gens, qu'ils soient français ou pas, qui tournent partout dans le monde. Donc, ils sont contactés par mes soins presque parfois 2 ans à l'avance pour qu'on puisse essayer de trouver une date qui peut coller à leur planning, parce que ce sont des artistes qui sont très demandés à juste titre parce qu'ils sont formidables. Et donc quand on veut des gens formidables, ce qui est le cas ici encore une fois, on les invite le plus tôt possible pour qu'on puisse trouver une date et puis offrir leur présence au Festival de Sablé pour que chacun et chacune puisse venir les rencontrer et les découvrir.
Et quelles sont les informations pratiques à savoir et où peut-on se renseigner ?
Alors il y a un site internet qui est très 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 bien, www.festivaldesablé.com. Vous aurez toutes les informations de concerts, les dates, les concerts, les ensembles, les résumés de textes, des vidéos, soit des artistes, soit des concerts qui sont proposés. Cela permet de se projeter évidemment. Il y a la billetterie qui est en ligne, on peut acheter directement ses billets, les tarifs, les offres préférentielles, les abonnements. Donc il y a absolument toutes les informations qui sont indiquées, les contacts par mail ou par téléphone au besoin s'il y a des questions. L'équipe de l'Entracte est vraiment formidable, elle répond à tout. Toujours des solutions. Donc voilà, on est toujours heureux d'accueillir le public, de pouvoir le renseigner. Et en tout cas, tous les éléments sont indiqués sur le site pour pouvoir justement se positionner sur un ou plusieurs concerts aussi, surtout quand on ne sait pas trop, qu'on ne connaît pas trop cette musique classique et notamment la musique baroque. Voilà, donc ça permet vraiment de se projeter et puis on est heureux d'accueillir aussi un nouveau public qui vient découvrir et partager ses émotions avec nous.
Eh bien, merci Laure Baer.
Merci à vous.
D'avoir répondu à notre invitation et vous êtes sur les antennes de Radio Alpa.
La vie culturelle locale avec Brian Bellardon.
Il est l'heure de conclure cette émission, mais également de conclure cette saison passée à vos côtés. Alors je remercie l'ensemble de mes invités d'être venus tout au long de l'année. Un grand merci à mes chroniqueuses et mes chroniqueurs pour leur professionnalisme toute cette année. C'est un plaisir de travailler avec cette équipe. Vous pouvez évidemment découvrir la grille d'été que Radio Alpa vous propose tout l'été dès le 22 juillet et jusqu'au 8 septembre. Vous pouvez donc réécouter les meilleures émissions de nos très nombreux programmes. En attendant, je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous et des vôtres, et je vous dis à l'année prochaine sur notre antenne. Merci encore.